Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce chapitre 8 du livre « Les Victorieuses » de Laetitia Colombani, édition Grasset dans le livre de poche, nous retrouvons Solène qui se dirige vers le palais de la femme. Elle va retrouver sa permanence parmi toutes ces femmes en difficulté. Une surprise l'y attend. La femme pour laquelle elle avait écrit une lettre de réclamation adressée à un supermarché s'avance simplement. « Ils m'ont remboursé !» Pour la femme, comme pour Solène, une petite victoire qui fait chaud au cœur. Oui, une victoire à 2 euros. Mais Solène sent une émotion particulière. Elle est ici à sa place, au bon endroit, au bon moment. Quelle différence avec les victoires ressenties lors des procès gagnés dans sa vie d'avocate. Ces victoires-là, même fêtées, ne l'avaient pas réjouie comme cette simple phrase dans la bouche de la femme « Ils m'ont remboursé ». Reprenons notre lecture. Solène est maintenant partie intégrante de l'équipe du Palais de la Femme et elle est attendue. Chapitre 8. Paris, aujourd'hui. Penchée sur son smartphone, Solène ne voit pas défiler les stations de métro. Elle vient de lire un article intitulé « Les femmes et la précarité ». Depuis quelque temps, elle s'intéresse de plus près au sujet. Le constat de l'enquête est alarmant. Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté, les premières bénéficiaires du RSA. Elles représentent 70% des travailleurs pauvres. Plus de la moitié des personnes faisant appel aux banques alimentaires sont des mères célibataires. Le chiffre est en constante augmentation, il a doublé en 4 ans. Les demandes d'accueil de femmes avec enfants en foyer sont exponentielles. Solène relève la tête, accablée. Elle s'aperçoit que le métro s'est arrêté à la station Charonne. C'est ici qu'elle descend. Elle se précipite sur le quai, remonte à la surface. En longeant le supermarché, elle pense à la lettre qu'elle a rédigée pour la buveuse de thé. Lorsqu'elle est retournée au palais le jeudi suivant, la femme était là, entourée de ses compagnes au même endroit. À l'entrée de Solène, elle s'est levée, s'est dirigée vers elle et a simplement dit « Ils m'ont remboursé ». Et Solène a souri de cette victoire immense et dérisoire. Une victoire à 2 euros qui lui a tenu chaud. En elle, une petite flamme s'est allumée. Elle a songé à tous les procès qu'elle avait remportés, aux millions qui s'étaient disputés entre les parties comme un ballon qu'on s'arrache sur un terrain de rugby, aux fortunes que ses clients avaient amassées, aux honoraires faramineux facturés par le cabinet, aux soirées arrosées de champagne auxquelles elle était conviée dans les lieux d'exception. Des victoires, elle en avait fêté, mais aucune ne l'avait vraiment réjouie. Elle était restée en retrait, à la périphérie de ses émotions, anesthésiée. Cette victoire-là lui procurait un sentiment différent, celui d'être à sa place, au bon endroit, au bon moment. La femme n'a pas dit merci, elle a juste rempli une tasse de thé et l'a posée sur la table où Solène venait de s'installer. Assise au milieu du foyer, Solène a bu le liquide brûlant et sucré en célébrant intérieurement les 2 euros remboursés. Un thé délicieux, meilleure que toutes les coupes de champagne réunies dont elle a savouré chaque gorgée. Voilà un mois qu'elle a franchi les portes du palais pour la première fois. Elle est en train de trouver ses marques. Léonard avait raison. Les résidentes sont méfiantes. Il faut les apprivoiser. Il faut s'affirmer. Solène a pris l'initiative d'imprimer de petites affiches pour annoncer sa permanence et les a punaisées dans le hall d'entrée. Aujourd'hui, les buveuses de thé l'ont saluée. La tricoteuse n'a pas levé les yeux, le contraire l'aurait étonnée. La dame au cabas dort dans un coin, ramassée sur elle-même. De la table qui lui est désormais réservée, Solène voit arriver la serbe, flanquée de son inénarrable caddie. Elle pâlit, elle n'est pas prête à se livrer à une nouvelle séance de torture. D'autres tâches plus importantes l'attendent, du moins elle l'espère. Elle tente de se cacher derrière l'écran de son ordinateur, comme la tricoteuse derrière son pot de fleurs. Trop tard, la serbe l'a repérée. Elle se dirige droit vers elle, s'assoit sans y être invitée. Solène tente de faire bonne figure. Elle explique diplomatiquement qu'elle n'a pas le temps de lire aujourd'hui. En fait, elle est là pour écrire. Oui, elle est écrivain public. Ces mots sonnent encore étrangement dans sa bouche. Elle a du mal à les prononcer, comme si elle ne se sentait pas tout à fait légitime. La serbe hoche la tête. Écrire, c'est bien aussi. Elle a justement besoin d'une lettre. Une lettre pour Elisabeth, précise-t-elle, mais elle n'a pas l'adresse. Voilà qui commence bien, songe Solène. Une nouvelle galère. La serbe la monopolise pour rien. Solène aimerait consacrer son temps à des tâches plus utiles. Pourtant, impossible d'y couper. Est-ce une de vos proches, de vos amis ? Interroge-t-elle. La serbe secoue la tête. Non, c'est Elisabeth, Elisabeth II d'Angleterre. Je veux un autographe, dit-elle. J'en ai déjà plusieurs, mais pas celui-là. Solène marque un temps, atterrée. Cette femme qui manque de tout, qui habite en foyer, cette femme dont la directrice lui a raconté la vie âpre, abîmée, maltraitée, marquée par la guerre, les abus et la prostitution, cette femme-là n'a qu'une chose à demander, une signature sur un bout de papier. Solène ne sait que répondre à cela. Cette requête la déroute autant qu'elle la bouleverse. La serbe n'a pas l'air folle. Elle semble juste enfermée dans un monde qui lui appartient, qu'elle a peut-être construit pour se protéger des épreuves subies. Solène voudrait lui dire que sa démarche est vaine, que la reine d'Angleterre ne lui répondra pas, qu'elle dort dans un palais, un vrai, bien loin de celui-ci, qu'elle est née dans un monde où les enfants ne sont pas déchiquetés par les bombes sous les yeux de leur mère, où les femmes ne sont pas violées en réunion par 10 soldats avant d'être livrées à un réseau de prostitution. Elle voudrait lui dire qu'Elisabeth s'en fout de son malheur, de sa vie, de ce corps supplicié qu'elle traîne partout comme elle traîne son caddie. Elle voudrait lui dire tout ça, mais elle ne le fait pas. Après tout, pourquoi pas ? Une lettre à la reine d'Angleterre, c'est mieux que 2 heures à lire des prospectus et des publicités. Solène allume son MacBook et commence à taper. « Pour Svetana », précise la serbe, avec un C. Solène ne sait par où commencer. « Chère reine Elisabeth, n'est-ce pas un peu trop familier ?» Elle efface, elle reprend. « Votre Altesse Sérénissime ?» Elle ignore la formule consacrée. En 15 ans d'avocature, elle a eu le temps de maîtriser les tournures de politesse, mais elle ne connaît pas celle-ci. Niveau protocole, Elle n'est pas très calée. Je devrais regarder plus souvent les émissions sur les têtes couronnées, songe-t-elle ironiquement. Après une brève recherche sur Internet, elle opte pour la sobriété. Mieux vaut laisser de côté les formules ampoulées. Les « Daigne votre majesté accepter l'expression de mon profond respect » et autres « J'ai l'honneur d'être avec la plus grande déférence votre très humble serviteur. » L'esprit est peut-être Buckingham, mais pas très palais de la femme. Solène achève de rédiger le courrier et le lit à haute voix. Svetlana secoue la tête. « Ça ne va pas ! Il faut écrire en anglais !» Solène s'arrête. « Penaude ?» La remarque est frappée au coin du bon sens. En anglais pour la reine d'Angleterre, l'évidence se passe de commentaires. Une femme d'une trentaine d'années déboule à cet instant dans le foyer. Solène reconnaît la résidente qui avait abordé la directrice le jour de sa visite du palais. Elle paraît furieuse et se précipite vers les buveuses de thé. Elle se met à hurler qu'elles font chier les tatas. La plaque de la cuisine du deuxième est encore niquée. Elle se croit chez elle ou quoi? Elle en a ras-le-bol de les entendre jusqu'à minuit. Il y en a qui dorment, en tout cas qui essaient. Et puis, il faut arrêter de foutre les poussettes dans le couloir. La prochaine fois qu'elle en chope une, elle la vole et la vend sur eBay. Au moins, ça lui fera de la thune. La tricoteuse lève les yeux de ses aiguilles d'un air indifférent, tandis que la dame au cabas s'éveille en sursaut. « Tu pourrais faire moins de bruit » proteste-t-elle. La jeune femme réagit instantanément. « Qu'est-ce que tu fous encore là à pioncer? C'est les parties communes ici. T'as une chambre et un lit. Si tu veux dormir sur un banc, t'as qu'à retourner dans la rue. Ça libérera une place pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. » La dame au cabas s'énerve. « Qu'est-ce que tu sais de la rue? Tu n'y as jamais promené ton cul? Mon cul, il en a vu !» lui répond l'autre en hurlant plus fort « et des plus belles que le tien. Ça m'étonnerait. Tu veux comparer? Combien de fois tu as été violée ?» réplique la dame au cabas. Les buveuses de thé s'en mêlent. Le ton monte. Il en faudrait peu pour qu'elles en viennent aux mains. Solène s'est arrêtée d'écrire, sidérée. En face d'elle, Svetlana hausse les épaules, visiblement habituée. « C'est Cynthia, elle est en colère. Toujours en colère, Cynthia. » L'employée de l'accueil vient de s'interposer. Elle demande à Cynthia de se calmer. Ses visites ont déjà été suspendues pour un mois. Elle risque une nouvelle sanction si elle continue comme ça. Après une dernière insulte au tata et à la dame au cabas, Cynthia finit par s'en aller. Le silence revient dans le grand foyer. Solène s'aperçoit que Svetlana n'est plus là. Elle s'est envolée avec son caddie sans attendre sa lettre. Solène observe le courrier en anglais qu'elle vient de rédiger. Que doit-elle en faire? Le jeter? Le poster? Le conserver pour une prochaine fois? L'incursion de Cynthia a jeté un froid. La tricoteuse a plié bagages, comme la dame au cabas. Les buveuses de thé s'en vont. Il est l'heure de rentrer. Solène place la lettre dans son sac et remet son manteau quand elle aperçoit la petite fille aux bonbons qui vient d'arriver. Elle suit sa mère en mangeant des oursons en guimauve nappés de chocolat. Comme la première fois, elle passe devant Solène, s'approche et lui tend un ours de son paquet. Solène prend la friandise et tente d'engager la conversation. « Comment t'appelles-tu » demande-t-elle. La fillette ne répond pas. Elle s'éloigne en direction de l'escalier et disparaît. Quel est le sens de tout cela? Solène l'ignore. Quelque chose lui échappe de cet endroit, de ces femmes qu'elle côtoie sans vraiment les rencontrer. Elle n'a pas le code pour déchiffrer les âmes et les comportements, pas le mode d'emploi. Pourtant, elle le sent. Elle est en train de gagner sa place ici et lentement. Léonard avait raison, songe-t-elle en quittant le palais. Il faut du temps. Chapitre 9. C'est arrivé ce matin, ce qu'elle redoutait depuis des années. Elle savait que cela se produirait un jour, qu'elle finirait par le croiser. Elle avait appris par ses amis communs qu'il avait emménagé dans le quartier. Jérémy, son grand amour, celui qu'elle n'a jamais oublié. Elle est sortie dans la matinée pour affranchir la lettre à Elisabeth. Elle s'est dit, après réflexion, qu'elle méritait d'être postée. Après tout, elle l'avait rédigée, traduite. Et puis, la Serbe avait le droit de rêver. La vie lui avait tout pris, mais il lui restait ça, le droit d'espérer, de s'évader en collectionnant quelques signatures de têtes couronnées. Qui était Solène pour jurer de la vacuité de cette tentative ? Un peu de poudre aux yeux, un peu de Buckingham dans une vie abîmée, comme on verse du sucre dans un mauvais café. Cela n'en change pas le goût, mais le rend plus facile à supporter. Solène a souri en notant l'adresse sur l'enveloppe. Elisabeth II, Buckingham Palace, London, England. De l'autre côté, elle a inscrit celle du palais de la femme. Elle a réalisé alors qu'elle ne connaissait pas le nom de famille de Svetlana. Elle a mis le sien. Si, par miracle, réponse il y a, l'employé de l'accueil lui transmettra. En glissant le pli dans la boîte notée « Province et étranger », Solène est prise d'un rire nerveux. « Tout ça pour ça » songe-t-elle. De longues études à la fac de droit, un concours d'avocat, des années en cabinet, un burn-out et une thérapie pour en arriver là, la vie ne manque pas d'ironie. Elle s'apprête à faire demi-tour lorsqu'elle l'aperçoit de l'autre côté de la rue, Jérémy, accompagné d'une jeune femme et d'un enfant de 2 ans. Solène se fige. Son cœur s'emballe, ses mains se mettent à trembler. Elle reste immobile, pétrifiée, comme une biche prise dans un faisceau de phares la nuit sur une route isolée. Jérémy ne l'a pas remarqué. Occupé à ramasser la tétine de son fils qui vient de tomber, Solène observe le petit garçon, une copie de son père, trait pour trait. Une autre version de lui-même, fraîche, rayonnante, insultante de vie et de bonne santé. Une version qu'on a envie d'étreindre et d'embrasser. Il ne voulait pas d'enfant, pas d'engagement. Il lui avait dit. Ce choix, Solène l'avait accepté. Ils vivaient séparément, se retrouvaient pour partager les bons moments. Ensemble, ils voyageaient à Londres, New York, Berlin, sillonner les expositions d'art contemporain, dîner dans les meilleurs restaurants. Cette vie lui convenait. Du moins, était-elle parvenue à s'en persuader. Le bonheur des autres est cruel. Il vous tente un miroir sans pitié. La solitude de Solène lui revient de plein fouet. Cet enfant dont il ne voulait pas, il l'a fait à une autre. Voilà la vérité. Ce petit garçon de 2 ans est plus qu'un désaveu, il est une trahison. À cet instant, Solène se sent flouée, vide de ce bébé qu'elle n'a jamais porté, de toutes ces choses dont elle n'a pas voulu avouer qu'elle lui faisait envie. Pour être aimée, elle est devenue ce que l'on attendait qu'elle fût. Elle s'est conformée aux désirs des autres en reniant les siens. En chemin, elle s'est perdue. Dans la rue, face à Jérémy, elle a l'impression que sa vie entière défile sous ses yeux, en accéléré, comme un film qui se joue sans elle. « Ce devrait être moi, se dit-elle, qui marche à ses côtés, qui ramasse la tétine tombée. Moi qui dis non, plus de bonbons. Moi qui passe la main dans les cheveux ébouriffés. La blessure est là, béante. Solène croyait l'avoir colmatée à grands coups d'avancement de carrière, de promotion au cabinet. Elle s'est trompée. Malgré les baumes et les onguents, elle n'a jamais cicatrisé. Avec le temps va, tout s'en va, dit la chanson. Tout s'en va, sauf ça. Il est des deuils qu'on ne fait pas. Jérémy est de cela. Solène rentre chez elle, glacée. Elle imagine l'appartement de Jérémy, joyeusement désordonné, empli de jouets, de pleurs d'enfants, de biberons, de biscuits écrasés. Elle a envie de hurler. Elle pourrait s'effondrer, passer la journée à pleurer dans son lit. Par miracle, on est jeudi. Elle doit se rendre au palais aujourd'hui. Sa permanence va la sauver. Il n'est pas encore l'heure, mais qu'importe, elle ira en avance. Tout plutôt que de rester là à contempler sa vie gâchée. Elle quitte l'appartement à la hâte. Elle s'enfuit. Elle passe devant la boulangerie, laisse une pièce à la sans-abri, s'engouffre dans le métro. Ne plus penser, se noyer dans la vie des autres, comme elle se noyait jadis dans les dossiers. C'est un pis-aller, elle le sait, mais elle n'a rien d'autre à quoi se raccrocher. Alors qu'elle remonte la rue qui mène au palais, Solène ralentit. Elle aperçoit un peu plus loin la tricoteuse assise sur le bitume. Sur un morceau d'étoffe, devant elle, sont exposés ses travaux. Des pulls pour adultes, pour enfants, des chaussons pour bébés, des cardigans, des gants, des écharpes, des bonnets. Solène hésite. Elle s'approche, intriguée. Un couple observe les tricots. À côté de chacun, un prix est affiché. Un prix dérisoire, symbolique. Les chaussons à 10 euros, les gilets à 20. Autant d'ouvrages magnifiques, élaborés, soignés. Solène ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'il coûterait dans un grand magasin. 5 à 10 fois plus, c'est certain. Ces pulls sont des œuvres d'art, se dit-elle. Cette femme a de l'or dans les mains. Quel talent bradé, mais quel gâchis! Elle n'ose avancer davantage. Le couple se lance dans une discussion au sujet d'une petite paire de chaussons. Il propose la moitié du prix demandé. La tricoteuse est sur le point d'accepter. 5 euros. 5 euros pour 2 chaussons faits main. À peine le prix de la laine. 5 euros pour des heures de travail effectuées avec patience, minutie. Solène s'empourpre. La colère ressurgit, celle-là même qu'elle avait ressentie en rédigeant le courrier pour la buveuse de thé. Une bouffée de rage l'envahit. Elle n'avait pas l'intention d'intervenir, mais ne peut se retenir. Elle interpelle le couple. N'ont-ils pas honte de négocier ? Ils paieraient 10 fois ce prix dans n'importe quelle boutique des beaux quartiers. Les chaussons sont magnifiques, la laine est douce, soyeuse, de qualité. C'est 10 euros, c'est à prendre ou à laisser. Le couple, des visages solennes, sidérés, tout comme la tricoteuse, qui semble se demander de quoi elle se mêle. Les clients reposent les chaussons et s'éloignent, agacés, sans rien acheter. Solène reste debout sur le trottoir, accablée. La tricoteuse la foudroie du regard. Elle ne dit rien, ses yeux parlent à sa place. Solène bredouille quelques mots d'excuses. Elle ne sait pas ce qui lui a pris. À cause d'elle, la femme a perdu 5 euros et elle sait à présent ce que 5 euros signifient. Elle s'apaise à s'en aller, confuse. Elle se ravise. Elle sort son porte-monnaie et annonce qu'elle prend les chaussons. La tricoteuse la dévisage, étonnée. Solène saisit les créations de laine et lui tend un billet. En s'éloignant vers le palais, elle pense à Jérémy, à cet enfant qu'elle n'a jamais porté, à ses chaussons qu'elle vient d'acheter. Un bel acte manqué. « C'est du 17 !» a dit la tricoteuse. « Taille, nouveau-né !» Chapitre 10. L'employé de l'accueil paraît étonné de la voir arriver en avance. « Je suis venu plus tôt aujourd'hui, » annonce simplement Solène. Bien sûr, elle ne dit pas Jérémy, elle ne dit pas l'enfant, elle ne dit pas le chagrin qu'elle a ressenti en les voyant. Elle ne dit pas l'effondrement, le gouffre qui s'est ouvert sous ses pieds. Elle ne dit pas les chaussons pour bébé qu'elle vient d'acheter. « Ça tombe bien, » répond l'employé. « Une résidente vous cherche. » Solène marque un temps de surprise. C'est la première fois qu'on la demande ici, qu'on manifeste l'envie de lui parler. Tant mieux, aujourd'hui, elle a vraiment besoin d'être utile à quelqu'un. L'employé désigne une femme assise dans le foyer. Solène reconnaît la mère de la petite fille aux bonbons. L'enfant n'est pas là, la résidente est seule. L'endroit est calme à cette heure de la journée. Les buveuses de thé ne sont pas encore arrivées. Pas de traces de la dame au cabas, ni de Cynthia l'énervée. Solène s'avance. « On m'a dit que vous me cherchiez, hasarde-t-elle. » La femme sort de ses pensées. « Il paraît que vous écrivez des lettres. Je voudrais en envoyer une à mon fils, au pays. » Solène acquiesce en s'asseyant à ses côtés. Elle prend le temps de détailler ses traits. La mère ressemble à la petite fille. Elle a les cheveux tressés comme elle, la même intensité dans le regard, la même tristesse aussi, cette façon détachée de traverser la vie. Dans un geste qui lui est devenu familier, Solène pose son ordinateur et la minuscule imprimante qu'elle a pris l'habitude d'apporter. Un matériel léger, facile à transporter. Elle met en route son MacBook. Fin prête, elle attend le signal de la résidente pour commencer à taper. Mais celle-ci ne dit rien. Elle n'a pas l'air de savoir par où commencer. Elle semble émue, désarmée. Solène ignore comment l'aider. Elle manque encore d'expérience. Sa lettre à Elisabeth et le courrier au supermarché sont ses seuls galops d'essai. Il est sûrement plus complexe d'écrire à un fils qu'à la reine d'Angleterre, se dit-elle. Elle finit par demander, en guise d'introduction, le prénom du garçon. « Kalidou ?» répond la femme. À ce nom prononcé, son regard s'allume et se voile en même temps de chagrin. Dans ses yeux, il y a l'amour, il y a le manque, il y a l'exil, il y a l'interminable voyage entrepris jusqu'ici, il y a ce qu'elle a laissé derrière elle au pays, il y a Kalidou surtout, son enfant, son fils chéri, celui qu'elle n'a pas pu amener avec elle. Celui qu'elle serre dans ses bras toutes les nuits en pensée, celui dont elle se demande s'il parviendra un jour à lui pardonner. Elle voudrait lui expliquer pourquoi elle est partie, pourquoi elle a pris Soumeya, sa petite sœur, et pas lui. Elle voudrait lui raconter ce que l'on fait aux filles dans leur pays, la Guinée. Elle se souvient du jour de ses 4 ans, lorsqu'on l'a amenée et qu'on lui a tenu les jambes. Elle se souvient de la douleur fulgurante qui l'a coupée en deux et l'a fait s'évanouir. Cette douleur ravivée le soir de ses noces, comme à chacun de ses accouchements, telle une punition sans cesse renouvelée. Cette abomination qui se perpétue de génération en génération, ce crime contre la féminité. Elle ne voulait pas ça pour Soumeya. Non, pitié, pas ça pour Soumeya. Elle savait pourtant la chose inévitable. En Guinée, la quasi-totalité des femmes sont mutilées. Elle a entendu ce chiffre une fois à la radio. 96% de la population féminine. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle sait ce qu'il signifie. Il veut dire sa mère, ses sœurs, ses voisines, ses cousines, ses amies. Il veut dire toutes les femmes de son quartier, toutes celles qu'elle connaît. Il veut dire Soumeya aussi. Elle a supplié en vain son mari. Elle sait que ce n'est pas lui qui décide, mais sa famille. Hélas, il est trop tard, a-t-il annoncé. La cérémonie est programmée. La grand-mère paternelle s'acquittera de cette mission selon la tradition. La femme a décidé de fuir pour sauver Soumeya. Une amie l'a renseignée sur la route à suivre. « Tu peux emmener un enfant, a-t-elle dit. Avec deux, tu ne passeras pas. » Alors, elle a choisi. Elle a fait le choix le plus terrible, le plus déchirant de sa vie. Ce choix nécessaire, indispensable et insensé. Ce choix qui la hante pour l'éternité. Elle est arrivée au palais il y a un an, après des mois de voyage éreintant. Soumeya est sauvée. Pour elle, en revanche, la vie s'est arrêtée. De ce qu'elle a vécu, on ne se remet pas. Elle est amputée d'une partie d'elle-même, au sens propre comme au figuré. Son cœur est coupé en deux, écartelé entre l'Afrique et les murs du palais. Solène l'a écoutée sans un mot, bouleversée. Que dire après cela ? Elle comprend maintenant le chagrin dans ses yeux, cette tristesse millénaire qu'elle porte en elle, comme on porte une croix le long d'un calvaire. Celle de ces millions de femmes mutilées, abîmées dans leur chair au cours des siècles et des siècles, au nom de traditions ancestrales inhumaines qui continuent à se perpétuer. Elles sont nombreuses au palais à avoir fui le sort qu'on réservait à leurs filles. Elles viennent d'Égypte, du Soudan, du Nigeria, du Mali, d'Éthiopie, de Somalie, où la pratique est encore courante. Solène songe à la petite fille, à ses bonbons qu'elle mange en traversant le foyer, sans savoir que sa mère l'a sauvée. Elle a rompu le cercle infernal, brisé un maillon de la chaîne. Elle a libéré Soumeya et toutes les femmes de leur lignée. Plus jamais ça pour les générations qui leur succéderont. Elle s'appelle Binta, mais toutes ici l'appellent Tata. Tata, c'est le nom qu'on donne aux Africaines comme elle, un nom protecteur, rassurant, maternel. Tata a les yeux levés vers Solène. Elle attend. Il y a quelques instants encore, elle ne se connaissait pas. Maintenant, Solène est dépositaire du passé de Binta. Elle ne sait qu'en faire. Quel mot pour Kalidou ? Quel mot pour dire cela ? Ils sont si impuissants, les mots, les pauvres mots devant tant de souffrances. Cette femme vient de livrer sa vie comme on livre un secret, un fardeau, un cauchemar. Et elle attend, les yeux pleins d'espoir, les mots que Solène va poser sur son histoire. « Écrivez, s'il vous plaît. Dites à mon fils que je suis désolée. » À cet instant précis, Solène le sent. La digue cède brutalement. Une incontrôlable émotion s'empare d'elle. Face à Binta, elle éclate en sanglots, ou plutôt elle s'effondre. Ce ne sont pas des pleurs, c'est beaucoup plus que cela. Dans ses larmes, il y a Jérémy, il y a ce bébé qu'ils n'auront jamais, ces chaussons qu'elle a achetés sans savoir pourquoi. Il y a la souffrance de Tata, ses 4 ans profanés. Il y a la petite fille aux bonbons. Kalidou resté en Guinée. Il y a tout cela et plus encore. Ce chagrin qu'elle ne peut plus contenir, qu'elle ne peut plus masquer. Il faut le rendre au monde à présent, le déverser, le sortir de sa tête, de son corps tout entier. Elle a honte, tellement honte. pleurer devant cette femme qui a vécu l'enfer. Cette femme qui la prend dans ses bras, la console à présent comme le ferait une mère. « Pleure, lui dit Tata, vas-y, pleure, ça te fera du bien. » Alors, Solène ne retient plus rien. Elle laisse couler sa peine. Elle n'est plus que cela, ce chagrin déversé sur l'épaule de Tata. Elle est une toute petite fille dans ses bras. Elle est Kalidou, Soumeya, elle est tous ses enfants à la fois. C'est la première fois qu'elle s'effondre ainsi. Elle n'a jamais craqué devant qui que ce soit. Lorsque Jérémy l'a quittée, elle n'a rien dit. Elle a affiché un visage incrédule et puis elle a pleuré de longues nuits en secret. Mais pas ici, pas aujourd'hui. Dans les bras de Binta, Solène s'abandonne. Comme si étrangement, elle sentait que cette femme pouvait la contenir, la comprendre mieux que quiconque ne l'a jamais fait. Elles ne se connaissent pas, pourtant elles sont proches, si proches à cet instant. Deux sœurs qui n'ont pas besoin de parler, pas besoin de mots, juste ça, cette étreinte, ce moment partagé. Les buveuses de thé se sont avancées. Elles dévisagent Solène, étonnée. Elles demandent ce qui s'est passé. D'un geste, Binta leur fait signe de s'écarter, telle une louve protégeant son petit. « Laissez-la respirer !» L'une d'elles, la femme aux 2 euros, va chercher du thé. Une autre, un mouchoir en papier. Solène se calme doucement. Elle a les yeux rouges et gonflés. Quelle ironie, songe-t-elle, une avocate en larmes au milieu d'un foyer pour femmes en difficulté, et dire qu'elle est supposée les aider? Tant pis pour le camp, dira-t-on, tant pis pour les apparences. Solène a soudain l'impression qu'elle se libère d'un poids longtemps porté, d'une armure trop lourde qu'elle vient déposer ici, au pied de Binta, dans le grand foyer. Elle se sent plus légère, ainsi soulagée. Elle reprend ses esprits à grands coups de mouchoir en papier et de tasses de thé. Pendant ce temps, Binta tient conseil. Les tatas réunis autour d'elle. « On ne peut pas la laisser comme ça » souffle-t-elle. Elle parlemente un moment avant que Binta ne revienne vers Solène et lâche ce verdict sans appel. « Tu viens avec nous, on t'amène à la Zumba !» Solène, comme nous le voyons de plus en plus souvent dans notre lecture, est maintenant non seulement attendue par les femmes en difficulté, mais les exemples que nous voyons de plus en plus personnels. Et cette fois, c'est même le monde renversé. Solène, au comble de l'émotion, craque complètement en écoutant le récit de la vie de cette jeune maman d'origine guinéenne, venue en France pour sauver sa fille de l'excision, tout en étant obligée de laisser son fils Kalidou au pays. Solène, dont la vie gâchée refait surface à travers la vie des autres, s'effondre. Et ce sont les femmes qu'elle était venue aider qui la prennent en charge. Le prochain épisode a encore bien des secrets à nous révéler. N'oubliez pas, je lis pour vous, actuellement dans le livre « Les Victorieuses » de Laetitia Colombani, édition Grasset dans le livre de poche. À bientôt, chers auditeurs.
Gagnez des places grâce à nos partenaires en nous suivant sur Facebook, Radio Alliance Plus.